tendresse sèche. Redécouvrir une ville fréquentée dans son enfance en s'interdisant la nostalgie. Kyoto a très peu changé. Je n'en ai oublié que la cartographie. Imaginez un retour à Paris où l'on se rappellerait les lieux et non leur disposition. J'irai volontiers au Louvre, mais je ne sais plus où il se situe. Je suis bombardée d'émotions, sans domicile fixe. Pep s'arrête le long de la rivière de Gyon. De l'autre côté, un héron attend sa pitance à la fenêtre d'une taverne. La restauratrice le fait patienter en lui tendant parfois des rougatons. Ce spectacle nous captive. Il nous vient à l'esprit que si les châssiers a choisi cette enseigne, c'est pour des motifs sérieux. « J'ai faim », dit mon ami. Je connais Pep depuis un quart de siècle. Quand elle a faim, l'heure est grave. Retarder l'échéance du repas peut entraîner des conséquences terribles. Nous traversons la rivière et finissons par dénicher l'entrée dérobée de la taverne. Une hôtesse nous accueille comme si elle nous attendait depuis toujours. Subjuguée, Pep découvre les manières japonaises. À peine sommes-nous assises que l'on nous apporte du thé et des serviettes parfumées. « J'ai l'impolitesse de vous servir », dit l'hôtesse à mon amie qui, heureusement, ne la comprend pas. La tenancière nous explique qu'elle n'a qu'un seul déjeuner à nous proposer, mais que si nous le tolérons, nous n'aurons pas à le regretter. J'accepte avec joie et s'en suivent des processions de mets plus délicats les uns que les autres. Béni soit ce héron qui nous a indiqué le meilleur restaurant de Kyoto. De l'autre côté de la fenêtre, les châssiers en question s'impatientent. Pep veut aller lui donner à manger, la tenancière l'arrête. « Quand j'aurai fini mon service, je lui apporterai le reste. Ne le gâtez pas. Il n'en prend déjà trop qu'à son aise. » C'est moi qui traduis. Je ne saisis pas tous les mots, mais l'esprit ne m'échappe pas. Par ailleurs, plus je déguste les plats de ce festin, plus mon japonais me revient. L'hôtesse me demande d'où me vient mon Kansai-ben, mon dialecte de la région, car en effet, j'ai l'accent d'ici. Je lui raconte mon enfance, ma nounou. Où habitiez-vous? À Shukugawa. Je suis de Nishinomiya, s'exclame-t-elle. Nous avons donc été voisines et palabrons comme telles. Pep m'interroge sur le sens de notre conversation. Comme elle m'a interdit la nostalgie, j'invente que je lui parle politique. Nous sommes les dernières clientes de midi. Ainsi, nous assistons au déjeuner du héron qui reçoit de somptueux reliefs. L'animal a le bec fin et se goberge. C'est un plaisir de le voir se repaître. À l'auberge, nous prenons possession de nos chambres traditionnelles. Je m'émerveille de retrouver l'odeur du tatami frais. Mon ami, persuadé désormais que je suis parfaitement bilingue, me fait poser 1000 questions à l'hôtelier. Le futon est-il anti-acarien? L'oreiller est-il en plume? Etc. Pour acarien, je japonise l'anglais bedbug. L'hôtelier pâlit à l'idée que nous puissions le soupçonner d'abriter de tels hôtes. Nous frisons l'incident diplomatique. Je rétablis l'harmonie comme je peux. Nous allons nous promener. Le soir tombe. La nostalgie est un sentiment crépusculaire. La mienne grandit dans ma poitrine. Je découvre la jouissance de ne pas la partager. Kyoto a beau être cette cité d'exception, pour moi, c'est d'abord une ville de ma région. Et je m'émeus des loupiottes qui s'allument aux échoppes. Nos pas nous portent vers les montagnes qui délimitent la cité et nous découvrons un temple qui, à en juger par les effigies qui le recouvrent, est voué aux lapins. Pep, lapinophile, devant l'éternel, pousse toutes sortes d'exclamations et me prend un témoin. Enfin, un pays qui accorde au lapin la place qui lui est due! Tandis qu'elle photographie des dizaines de statues de lagomorphes, je me laisse envelopper par des rouleaux de nostalgie. Il fait noir, désormais. Il n'y a plus que les lanternes du sanctuaire pour nous éclairer, et le temps n'existe plus. J'ai 4 ans. Personne ne vient nous dire qu'il faut s'en aller. Y a-t-il une heure de fermeture? Il semblerait qu'il soit possible de passer la nuit au temple des lapins et Pep ne demanderait pas mieux. Les Japonais sont des gens si respectueux qu'ils n'imaginent pas les plans tordus qui s'installent dans les cervelles européennes. Ce qui finit par nous en dissuader, et la présence d'autres Occidentaux. J'emmène mon ami dans une gargote que j'ai repérée. On y sert d'authentiques okonomiyaki. L'okonomiyaki, littéralement « chose cuite à votre honorable goût », est malgré ce nom un plat des plus populaires. Il connaît en Europe une mode grandissante, ce qui prête à confusion. On croit chic d'en déguster alors que c'est presque de la nourriture de foire. Le bouge que j'ai déniché est vulgaire. Il y a des relents de graillons. Enchantée, je commande deux okonomiyaki et deux bières locales. La tenancière ne tarde pas à nous les apporter et je me délecte. C'est pile l'okonomiyaki que me préparait ma nounou Nishio-san à la cuisine. Derrière nous, des ivrognes parlent fort. Pep tire la tête. Elle déteste visiblement cet endroit. Au Japon aussi, il y a des soudards qui grasseillent. Je trouvais bon que tu le saches, lui dis-je. D'accord, je le sais à présent. Tu peux ne plus me traîner dans des lieux pareils désormais. La fatigue du voyage a raison de nous. Nous retournons à la ryokan, je m'effondre sur le futon. Quelques heures plus tard, me réveiller pour écrire est difficile. Dans ce sens-ci, le décalage horaire est dur à digérer. Charmée par la jolie lampe de papier, j'y arrive mieux. Le soleil ne tarde pas à se lever. À 8h du matin, je revais le yukata de l'auberge et je rejoins Pep, qui a commandé dans sa chambre le petit déjeuner traditionnel. Quand j'entre, mon ami est installé à la table basse, servie par une ravissante jeune japonaise qui dispose devant elle des plats de lac noirs et rouges. Manifestement, cela lui plaît beaucoup plus que la gargote de la veille. Je m'assis en face d'elle, la jeune femme enlève les couvercles des plats. Pep découvre des poissons séchés, des aubergines au miso, des champignons marinés, un rouleau d'omelette, des racines de lotus, une soupe d'algues. Elle n'en revient pas et goûte chaque mets avec enthousiasme, tandis que la jeune femme lui verse du thé. Je n'en suis pas à mon premier petit déjeuner nippon, il s'en faut. Et même si je ne nie pas son excellence, j'ai un peu de mal. Je mâchouille une petite prune salée. Je déteste, mais le voyage dans le temps fonctionne. Je déteste cela de manière identique aux occurrences précédentes. La jeune femme s'enquiert du sens de ma grimace. Je réponds « Shiokara, sugimasu ». Expression consacrée pour dire que c'est trop salé. Littéralement, c'est trop épicé de sel. Ce qui prouve qu'en japonais, le sel est considéré comme une épice. Pep se déclare plus japonaise que moi. Elle raffole de tout. Je maintiens qu'à midi ou en soirée, cela passerait mieux. Du poisson séché le matin, c'est trop fort en goût pour moi. S'ensuit la question piège de qui visite Kyoto. Par quel temple commencer? Il y en a tant et ils sont plus sublimes les uns que les autres. Je suggère de débuter par le plus proche, le Kiyomizu Dera. Nous nous y rendons à pied par des ruelles d'abord très calmes. À proximité, je découvre un dédale d'échoppes touristiques autour du temple. En 1989, il n'y avait pas cela. Heureusement, dès que nous franchissons l'enceinte sacrée, plus rien n'a changé. Le Kiyomizu Dera bénéficie d'un atout fréquent dans cette ville. Il est bâti sur les contreforts de la montagne environnante et n'en surplombe que mieux le monde profane. Celui qui l'explore a le double bonheur d'avoir la montagne dans son dos et une vue panoramique devant soi. Une cascade adjacente renforce le prestige d'un tel emplacement. C'était le temple préféré de mon père. La dernière fois que je l'avais vu, c'était en sa compagnie. Mon père avait alors la cinquantaine, mon âge. Je me rappelle son émotion lorsque nous l'explorions ensemble. Il ne disait presque rien, mais son visage montrait des précipices, comme si cette beauté le ravageait. Il ouvrait grand les yeux avec un air de souffrance. Il paraît que j'ai une expression comparable quand j'admire. Ce séjour de 1989 avait eu lieu en août. C'était la saison des pluies. Il faisait une chaleur accablante et l'humidité nous oppressait. En mai 2023, il fait 28 degrés. C'est un peu beaucoup pour la saison, mais c'est agréable. D'autant qu'aucune touffeur n'est encore perceptible. La deuxième quinzaine de mai est l'époque dévolue aux visites scolaires. Il y a très peu de touristes occidentaux, seulement des tribus d'adolescents nippons en uniforme accompagnés d'un ou de plusieurs professeurs. C'est une promiscuité très sympathique. Les élèves sont à la fois rigolards et respectueux. Ils regardent avec déférence ce qu'on leur montre. Quand j'étais au collège, j'ai visité Chambord avec ma classe, déclare Pep. Et vous étiez comme ces adolescents ?
Pas exactement. On chahutait, c'était à qui dirait la connerie la plus énorme. Enfin, comparé aux jeunes français d'aujourd'hui, nous étions des enfants de cœur.
Je m'arrête auprès d'un professeur qui s'exprime doctement devant de sages élèves et un panorama sublime et j'écoute. Je ne comprends que des bribes. Ce qui est important lorsque l'on contemple, c'est de retrouver l'harmonie qui est en soi. Les adolescents l'écoutent avec une pénétration profonde. Je traduis à Pep qui s'esbaudit. Quel enseignant génial ! S'il est un pays qui réserve encore au sensei la place qui devrait être la sienne, c'est le Japon. Ce titre y reste auréolé d'un prestige absolu, au point qu'il est difficile de le traduire. Le sensei est au professeur ce que le mont Fuji est au point culminant de la Belgique. Dans l'enceinte du temple, j'initie mon ami aux joies du kori dans une cafétéria. La glace pilée ou granitée, arrosée d'un sirop de son choix. Je suggère le kori au matcha. Nous recevons deux gigantesques ramequins remplis de granité, imbibés de thé de cérémonie, sucrés pour la circonstance. On jurerait deux réductions zen de montagnes imaginaires. Le verre si particulier du matcha nous envoûte pendant que nous croquons des cuillerées de glace pilée. « J'adore !» décrète Pep. « Il n'y a pas plus rafraîchissant ?» La chaleur monte. Nous retournons à la ryokan nous allonger une heure sur les tatamis. La tenancière nous demande si nous souhaitons que, ce soir, un dîner traditionnel nous soit servi. Nous acceptons.